RTL Soir.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauchet.
19h30 sur RTL, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. Du moins, on l'espère. On refait le monde ce soir avec la journaliste Hélène Pilichowski. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Marco.
Avec le producteur Xavier Couture. Bonsoir Xavier.
Bonsoir Marco.
Avec le politologue, directeur du centre d'études et d'analyse, Roland Cayrol. Bonsoir Roland.
Bonsoir Marc-Olivier.
Et le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Yves Tréhard. Bonsoir Yves.
Alors bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Décidément, les mots du général de Gaulle sont à la mode. Nicolas Sarkozy a qualifié devant les députés Les Républicains, les violences d'Air France donc, marquaient la chienlit, le délitement de l'État. Pour le Premier ministre Manuel Valls, qui avait ce matin parlé d'agissement de voyous, le mot chienlit est dangereux. François Hollande a répliqué tout à l'heure. Il a répondu, moi, je ne m'en prendrai jamais aux corps intermédiaires. Alors vous, vous êtes plutôt d'accord avec Nicolas Sarkozy, avec Valls, plus généralement, la réputation de la France est-elle atteinte? Plein de sujets ce soir sur les réseaux sociaux, Benoît.
C'est partagé, évidemment. Laure trouve que Sarko a vu juste, Chris confirme. Valls ne veut pas entendre parler de chienlit, et pourtant c'est bien la situation actuelle en France. Mais Jean-Luc rigole, sacré Paul Bismuth, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et Pierre d'ajouter, on peut pas dire que ses propos ne soient pas fondés. Le problème est que Nicolas Sarkozy n'a rien fait pour rendre l'État, le droit ou les institutions plus respectables. Je dirais même l'inverse. Boston trouve que ça ferait un bon slogan pour 2017, citer de Gaulle plus pour exister plus. Vous êtes vache, pour une fois que Sarkozy utilise un peu de vocabulaire, le défend Ariane. Moustique, lui, s'amuse plutôt de l'indignation du Premier ministre. Attention, chienlit, c'est hachement dangereux, ça risque de mettre le feu aux chemises. Par contre, traiter les gens de voyous, c'est pondéré, dosé et apaisant. Non mais mort de rire. Il nous faudra un dictionnaire des mots possibles, hein, s'énerve Tango. Ça devient préoccupant, cette police du dico. Sourit pourtant ouvert le sien et recopie la définition de chienlit. Pagaille, désordre, embrouillement, mascarade, trouble, perturbation, désunion, bouleversement, incohérence, chambardement, désarroi. Pour moi, c'est adapté, dit-elle. Enfin, il y a les ados qui n'ont rien compris à la polémique. Chien-lit, j'ai pensé, ça veut dire un lit qui a la forme d'un chien ou un lit pour chien, avoue Monta. Ceux qui se moquent, Bénédicte vous répond pour conclure. Vous êtes trop jeune pour vous souvenir de l'épisode gaulliste et du fait que nous aussi, on avait tous recherché la définition.
Vous, Roland Cayrol, vous n'êtes pas trop jeune pour vous pour y faire référence.
Ah oui, oui. Voilà, vous avez annoncé les seniors, on y est.
Oh là là là.
Un autre senior tout à l'heure, Alain Duhamel, a fustigé un peu Nicolas Sarkozy sur le thème « Non, le pays n'est pas à 100 comme en 1968 et Nicolas Sarkozy ne fait que mettre de l'huile sur le feu ».
Non, je crois que les gens qui n'ont pas l'habitude de citer le général de Gaulle prennent chaque fois des citations mal à propos.
David Morano.
Eh oui, la chienlit. Enfin, écoutez, cet homme, Nicolas Sarkozy, est pour la liberté des entreprises, il est pour la concurrence, il est pour la mondialisation, et il reproche, si je comprends bien, à l'État de ne pas avoir mis de l'ordre à Air France. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'est plus en Union soviétique, on n'est même plus au temps de l'État patron du général de Gaulle. L'État est
ce matin,
actionnaire, minoritaire.
Alain Vidalis disait... Vous voulez quoi, la Corée du Nord
Ah ben je ne savais pas, il arrive même que je rejoigne à la vie. Vous voyez. Non, c'est quand même tout à fait ahurissant. On a laissé une entreprise, avec participation de l'État, discuter, ne pas savoir organiser le dialogue social, parce que il y a des erreurs des deux côtés. Comme chaque fois qu'un dialogue social se casse la gueule, c'est à la fois la responsabilité de la direction et des syndicats. Il y a cette violence inacceptable. Personne ne l'approuve, donc c'est pas la peine de s'y arrêter. C'est une violence inacceptable d'individus qui sont chauffés à blanc.
Imaginez, mais cette dimension politique, là, que prend aujourd'hui ce débat.
Mais vous êtes dans une entreprise où il y a 1900 personnes virées d'un coup, après un échec du dialogue social. Ça fait un choc. Je dis pas ça n'excuse rien. Mais c'est pas bien, quoi. Et la politisation à outrance, sans arrêt, par des Sarkozy et même par des premiers ministres en exercice.
Oui, voyous, hein.
Voilà. C'est too much. C'est too much. Ça n'est pas comme ça qu'on rétablit un dialogue social constructif. D'autant qu'à ma connaissance, le SNPL, le syndicat des pilotes de ligne, était prêt à faire un pas doucement. Enfin. C'est toujours comme ça, Air France. Le SNPL finit par accepter un peu de petits pas, à condition qu'on lui fasse la cour plus longtemps.
Non, mais c'est symptomatique tout ça. Les syndicats et les salariés ne demandent qu'une chose, c'est justement que l'État vienne le plus possible dans le conflit. Et avec l'entrée de l'État dans le conflit, vous pouvez être sûr que le conflit va peu à peu s'embourber, s'arrêter, et qu'on va s'arrêter pour mieux, pour plus mal sauter. Mmh. Puisque, c'est quoi le problème? C'est que cette compagnie aérienne qui était prestigieuse s'adapte à la concurrence internationale qui est celle d'aujourd'hui, et dans de bonnes conditions. L'État est un mauvais entrepreneur. À partir du moment où l'État est là, ça veut dire que les politiques s'en mêlent et les politiques n'y connaissent absolument rien. Ils achètent quoi ? Qu'ils soient de droite ou de gauche, hein ? Ils achètent la paix sociale.
Et mais quand ils emploient des mots comme aujourd'hui, puisque le débat de ce soir, c'est vraiment sur les mots. C'est... délitement de l'État, chienlit, voyou.
Délitement de l'État. Mais à partir du moment où il y a 17%... L'État est encore engagé à 17%. Alors on nous dit, l'auteur n'est pas majoritaire. Mais c'est l'actionnaire de référence, l'État. Donc de toute manière, les syndicalistes vont avoir, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, qu'une envie, c'est que l'État se mouille le plus possible. Et si l'État se mouille, la cause est perdue. Et la rénovation, la réhabilitation, la reconstruction de cette société, elle est, on peut considérer qu'elle est, elle ne sera pas faite.
Bon, écoutez, moi, Hélène. Ce que je pense, vous avez sans doute raison, mais ce que je pense surtout, c'est que si la crise à Air France et les images qu'on a pu voir ont abaissé l'image de la France, hein, comme tout le monde l'a dénoncé en disant que ça a fait le tour du monde et des journaux de la presse internationale. Ce qui est vrai, bien évidemment. Mais je peux dire qu'une chose, c'est que le vocabulaire d'aujourd'hui employé par nos politiques ne contribuera pas à redresser l'image de la France. Alors là, certainement pas. Parce que alors franchement, je ne comprends plus. Nicolas Sarkozy, on a souvent dit que je le défendais, mais j'ai de plus en plus de mal, je dois dire, parce que je ne vois pas ce que peut apporter le terme de chienlit au débat, est-ce que lui peut apporter et comment il peut se faire respecter avec un mot comme ça lancé dans la nature pour se donner un ergolien, peut-être, je n'en sais rien, je le comprends mal. Et la réponse de Valls, c'est le même tabac. Je dois dire
celle de Mélenchon, on n'en a pas parlé, garde chiourme du patronat en parlant de Manuel
Valls. Mais ça veut dire que
Valls.
Notre classe politique va très très mal, qu'elle n'a rien à dire sur le débat, parce qu'il y a des choses sur le sujet, parce qu'il y a des choses à dire sur Air France. Effectivement, l'achat de la paix sociale pendant des années, ça c'est quelque chose d'important. On s'en remet à l'État qui n'a que 17%, alors qu'il serait grand temps justement que les chefs d'entreprise qu'il en ait plus du tout. Effectivement, c'est lamentable. Et je pense que notre classe politique aujourd'hui, elle ne va pas réconcilier les Français avec leurs dirigeants.
On y revient dans un instant avec Xavier Couture.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde
dans RTL Soir.
Et on reprend notre débat sur la politisation du dossier Air France ce soir avec Hélène Pilichevski, Roland Quayrol, Yves Tréhard et Xavier Couture. Xavier, donc, chienlit pour Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, voyou. Manuel Valls, d'ailleurs, qui sera demain l'invité de RTL à 7h45 d'Olivier Mazerolle.
J'aime beaucoup l'espèce de délire de vocabulaire qui occupe la classe politique depuis quelques années. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des surenchères sur des mots qui sont en général employés à contresens ou qui sont employés pour récupérer un pan de l'histoire à son propre profit. Je pense que c'est un peu l'idée de Sarkozy qui va chercher un mot qui a été prononcé en 1944 par De Gaulle sur les Champs-Élysées à Georges Bidault, une deuxième fois en 1968. Et depuis, je crois que plus personne n'avait utilisé le mot chienlit. Mais ceci posé, c'est quoi la chienlit ? La chienlit, c'est l'incapacité du dialogue social en France, et ça c'est depuis très longtemps, et particulièrement dans les entreprises qui sont publiques ou parapubliques, parce que même si on dit que l'État n'a plus que 17%, la réalité c'est que c'est lui qui décide, puisque les autres actionnaires n'ont pas la possibilité de s'exprimer à la même hauteur. Donc en fait, le véritable patron de Air France, même s'il ne l'avoue pas, c'est l'État. Et l'État a laissé, sans qu'il osait, sans quister, une situation impossible dans une entreprise qui, à partir du moment où elle avait accepté la fusion, le mariage avec KLM, avait de facto accepté d'entrer dans le jeu de la mondialisation. Dès lors que on n'est pas foutu de mettre au pas quelques centaines de pilotes, évidemment, on arrive à ces drames. Ça, c'est la vraie chienlit. Je voudrais juste terminer pour dire qu'il y a une autre chienlit, c'est qu'on est tout de même, et j'ai écouté le président de la République sur les cordes intermédiaires, c'est bien beau de nous rabâcher les oreilles avec les cordes intermédiaires. 16% de la fonction publique est syndiquée. 8% des emplois dans le privé. Donc, les corps intermédiaires, ils ne représentent pas grand-chose dans ce pays. Et c'est bien le problème. Et quand j'ai entendu ce matin un certain nombre de responsables de la CGT s'exprimer sur le sujet, franchement, c'est quand même très inquiétant. Parce qu'effectivement, nous avons besoin de syndicats, mais de vrais syndicats.
Ce qui est terrible là-dedans, c'est les réflexions des uns et des autres, des hommes politiques aujourd'hui, hier et avant-hier d'ailleurs. Quand vous prenez une entreprise comme Air France, ce qui est le cas d'autres entreprises dans lesquelles l'État avait des participations importantes, c'est que plutôt que de s'interroger sur comment réformer cette entreprise, quels sont les objectifs pour qu'elle soit viable et pour qu'elle puisse être compétitive, ils sont tout de suite dans un vocabulaire qui est un vocabulaire hyper politique et qui est un vocabulaire qui évidemment est adapté aux échéances électorales. Mais on en a assez de ça. Et c'est ce que, je pense, les Français vont leur dire aux élections. Il faut... Regardez, est-ce qu'aujourd'hui, on parle davantage de l'identité, notre identité nationale, de toutes ces choses-là, qui sont des sujets importants, c'est vrai, plutôt que de savoir comment on va adapter notre économie à l'avenir. Et si les Français, aujourd'hui, ils en ont ras-le-bol, c'est parce qu'ils se disent, mais attendez, le salariat est en train de partir, d'évoluer, le monde de l'entreprise est en train de complètement se révolutionner. Et ça, eh ben, il n'y a pas un seul des politiques, et pour cause, ils n'y ont jamais travaillé, qui puissent répondre et apporter des réponses.
Avant que Roland me contredise, mais simplement pour dire que sur une affaire totalement d'ordre privé, sur une entreprise, qui a-t-on entendu aujourd'hui ? Que les politiques. C'est ça la crise de ce pays, que les politiques sur un sujet qui est un sujet économique. Eh bien, ma foi, nous sommes mal partis.
Oui, d'abord, tous les mots n'ont pas le même sens. C'est pas tout à fait pareil de dire voyou. Pour des gens qui viennent déchirer les vestes et les chemises des dirigeants et qui les obligent à fuir gardés par des services de sécurité, c'est tout de même un comportement de voyou. C'est pas la même chose que de dénoncer le délitement de l'État et la chienlit dans le pays à partir d'une affaire comme ça. Sarkozy est allé un petit peu trop fort quand même, là, il faut pas exagérer. Et la deuxième chose, c'est que moi ça m'embête que Xavier tombe dans cette mode anti-syndicale facile.
Pas du tout. Au contraire, j'ai dit qu'il fallait, je défends les syndicats.
Les corps intermédiaires, c'est extrêmement utile.
Mais bien sûr.
Et je trouve que la façon de les désinguer à laquelle on s'est habitué est dangereuse. Il n'y a pas beaucoup de syndiqués en France, mais il y a une confiance majoritaire des salariés à l'égard des syndicats pour les défendre en cas de crise ou en cas de problème. Il y a 100 000 sondages là-dessus auxquels je vous renvoie, ceux que ça intéresse, sur Internet. Donc il y a tout de même une représentativité syndicale qui existe, et vouloir toujours se passer d'eux quand on n'est pas content de leur ligne...
J'ai pas dit ça. J'ai
voilà,
pas dit,
attention.
J'ai pas dit ça. Attention. J'ai dit que
Roland, cet hommage au syndicat vous honore, mais je crois que vous n'avez pas tout à fait raison. Mais non, c'est pas une réalité, parce que quand on sonde
les salariés qui sont syndiqués, 85 000 accords signés chaque année.
Quand on sonde les salariés syndiqués, ils disent qu'il faut confiance à leur syndicat, mais on sonde ceux qui adhèrent au syndicat, parce que si on sonde les autres, qu'à leur demander pourquoi ils n'adhèrent pas, ça me paraît très logique.
Et franchement, qui adhère aux partis politiques ?
Je pense que le gouvernement,
qui adhère aux partis politiques ? 1,5% des Français.
François Hollande. François Hollande va se mordre les doigts d'avoir trop fait confiance au dialogue social avant de faire passer des textes. François Rebsamen s'est retrouvé à faire un texte tout seul parce que les négociations avaient échoué. Ils ont perdu beaucoup de temps avec les syndicats. C'est jamais du temps perdu. La surpolitisation
d'un certain nombre de syndicats débouche sur des référendums d'entreprise. Vous voyez bien qu'il y a un vrai problème.
Les
syndicats ne sont pas représentatifs.
Un autre vrai problème, en tout cas pour ces boulangers condamnés par la justice pour avoir ouvert 7 jours sur 7. On en débat dans un instant.
RTL soir jusqu'à 20h. On refait le monde. Marc-Olivier Fauchier.
19h39 sur RTL. On refait le monde avec Yves Tréhard, Roland Kayrol, Xavier Couture, Hélène Pilichowski. J'ai honte d'être chef d'entreprise, de vouloir uniquement travailler. Vous avez entendu sur RTL l'indignation de l'un des boulangers condamnés avec trois autres, donc de ses confrères, à 500 € d'amende avec sursis pour avoir ouvert leur boulangerie 7 jours sur 7 dans les Landes. La justice leur reproche de ne pas respecter un arrêté préfectoral. Alors, à l'heure de l'ouverture des magasins le dimanche, vous trouvez cette décision absurde ? Ou quoi d'ailleurs sur les réseaux sociaux, Benoît ?
Beaucoup ont du mal à saisir. En effet, Gaspard Brocard, la France, ce pays où les gens qui travaillent et veulent entreprendre sont des délinquants. À l'heure où il n'y a plus de boulot en France, on oblige des boulangers à fermer boutique dans la mesure où les employés ont droit à leur repos. Où est le problème ? Demande Changement. 5 millions de chômeurs, 200 milliards de dettes et on condamne le travail. J'ai honte, s'énerve Ulrich. Naturel, lui, concède. Si c'est OK, pour ce cas-là, mais pourquoi pas les grandes surfaces ouvertes 7 jours sur 7 et qui, elles, vendent du pain ? Deux poids, deux mesures. Mais Fauzi se méfie. Vous voulez vraiment laisser les patrons faire un bénéfice colossal au détriment des travailleurs et de leurs familles ? Arrêtons les dérives libérales qui précarisent toujours davantage. En effet, le progrès, c'est pas de concurrencer les pays à bas coût où l'esclavage est normal, conclut Serge.
Alors, Hélène Pilichowski, quand je faisais le teaser, comme on dit, quand je vendais le sujet, je voyais hausser les épaules. Cette décision vous choque, manifestement.
Bah oui, telle qu'elle est présentée là, si on la voit comme ça, si on ne se met entre parenthèses, l'accord professionnel qui prévoyait effectivement que ce soit que 6 jours sur terre, des choses comme ça.
Bon. Non, c'est un arrêté.
Oui, non, mais il y a un arrêté après, mais au nom d'un accord. Ah oui, mais l'arrêté. au nom de l'accord qui a été négocié dans la profession. Attention, oui, non, je ne confonds pas les deux. Merci Yves de venir me rappeler.
Il faut rappeler l'ordre.
Non, mais c'est vrai, moi je suis absolument pour la liberté, et la liberté de boulanger, bien évidemment. Mais il y a une différence entre l'ouverture du dimanche et une compétition qui peut être faite, entre celui, la grande surface qui embauche du personnel, et là ça pose le problème des salariés, et le boulanger tout seul qui est à son compte. Et
enfin, il n'est pas tout seul, il a des salariés.
Oh, il a quoi, deux salariés ?
Il en a cinq, celui de ce matin.
Et il les a fait travailler tous les 7 jours sur 7 ?
Ben, je suis pas certain. En tout cas, il va devoir licencier l'un d'entre eux qui travaillait le dimanche.
Il dit qu'il va en licencier. Moi, je suis pour la liberté et choqué de l'amende, ça c'est certain. Parce que votre petite baguette, si vous voulez la trouver tous les jours, le samedi, le dimanche, le lundi, etc., c'est très agréable. Si vous êtes dans un lieu où il n'y a pas beaucoup de boulangeries ouvertes à la ronde, et ben, c'est très bien qu'il y en ait un qui fasse du zèle et qui serve son pain tous les jours, non ?
me demandez pas à moi, je ne peux pas vous répondre.
La mère de famille qui vous parle, voilà.
Non, mais on a compris dans votre lancement, Marco, que vous étiez un frénétique des boulangers le dimanche.
Parce qu'il n'a pas le temps les autres jours.
Bah, juste en bas de chez moi, oui. En fait.
D'abord, c'est quand même pas absolument la mort du petit cheval. Ils sont condamnés à 500 euros avec sursis. Hein, c'est pas.
Oui, mais ils disaient d'avoir ça sur son casier judiciaire.
Mais ça n'est pas inscrit sur les casiers judiciaires, les amendes avec sursis.
Numéro 5, ils disaient.
Oui, mais c'est ça. Donc ça n'est pas inscrit sur le casier judiciaire. C'est vraiment des blagues qu'on dit dans les médias.
Il sera dans la presse locale demain matin.
Mais ça va lui faire de la pub.
Oui.
Non, on a cette histoire tous les trois mois à peu près. Je me souviens, en mars, il y avait une grosse affaire en Ariège sur l'ouverture des boulangeries le dimanche, à peu près dans les mêmes conditions. Le dossier ariégeois était pourtant meilleur parce que les boulangers en question s'étaient débrouillés pour faire tourner leur personnel et que tous les membres de leur personnel avaient deux jours de suite de congé dans la semaine. Là, je suis moins sûr que ce soit le cas. Et de ce point de vue, c'est pas seulement un arrêté préfectoral, c'est que la Confédération de la boulangerie soutient l'idée de la fermeture un jour par semaine. Donc, c'est pas simplement le préfet qui dit scrogneugneux, qu'est-ce que c'est que cette histoire, fermez-moi cette boutique. C'est que c'est un vrai accord. Mmh. La Confédération de la boulangerie, elle se débrouille comme elle peut pour défendre une profession qui est en train de vraiment d'avoir beaucoup de problèmes. Dans chacune de nos villes de France, on ferme des dizaines de boulangeries. Parce qu'il y a les grandes surfaces, bien sûr, mais surtout parce que, une chose très bête, les Français mangent de moins en moins de pain. Et comme voilà,
ils boivent moins et ils mangent moins de pain.
Et oui, donc voilà, c'est très facile de dire allez, allons-y, ouvrez, on peut pouvoir ouvrir. Mais en même temps, il est normal qu'il y ait une régulation de cette activité.
Moi, je suis assez intéressé par ce que vous venez de dire, parce que j'ai eu l'impression d'entendre un argument et le contraire de l'argument.
Mais c'est pour ça que j'ai dit que j'étais embarrassé.
Mais moi, je ne suis pas très embarrassé. Parce que quand vous nous dites que ça coûte 500 euros d'amende, mais on voit que vous n'êtes pas entrepreneur, vous l'avez été pourtant, Roland.
Avec sursis.
Ben, ça prive surtout ces boulangers d'un septième de leur chiffre d'affaires. C'était ça le problème. Il est obligé de fermer un jour sur sept. Si.
S'il reste moi, il va encore regagner.
Oui. Honnêtement.
C'est pas un argument.
Vous expliquez, mais si, vous nous expliquez avec beaucoup de bon sens que dans le fond, les boulangeries aujourd'hui s'ouvrent, que les gens mangent moins de pain, qu'effectivement, un entrepreneur qui lui a décidé de travailler 7 jours sur 7, qui bosse effectivement, qui a réussi à créer une entreprise qui est un peu plus grosse que celle des autres, avec des salariés, arrive à ouvrir 7 jours sur 7. Où est le mal ? Si effectivement, il donne deux jours de congé consécutifs à ses salariés. Alors, je vois pas où est le problème. Si c'est le cas.
Il n'est pas concurrencé ses petits camarades.
Concurrence ses petits camarades. Mais depuis quand on n'a plus le droit de concurrencer les petits camarades? Ou depuis quand est-ce qu'il faudrait que la boulangerie, comme à peu près toutes les activités dans ce pays, soit régulée de manière absolument autoritaire et qu'on n'ait pas le droit d'être un boulanger? On n'a pas le droit d'être un boulanger plus dynamique que les autres.
C'est
un boulanger. Un boulanger plus dynamique que les autres. Et moi, je félicite les professionnels qui, dans leur profession, sont capables d'être plus dynamiques que les autres.
Oui, moi je suis d'accord. Il faut je suis un libéral convaincu et j'espère convaincant.
Ça dépend des fois.
Quand tu tapes sur la table,
Il est évident. Cela dit, le libéralisme ne peut pas se passer de régulation. Ce qui est intéressant quand même, c'est que si la chambre locale des boulangers s'étaient entendus sur un temps de travail, enfin sur des jours d'ouverture, autant que ça soit respecté. Après, la sanction judiciaire, c'est peut-être un peu beaucoup. Simplement, je voudrais dire une chose, pour avoir discuté avec des boulangers, des vrais boulangers, parce qu'il y a vrais et faux boulangers.
Absolument.
Les vrais boulangers,
notamment à Paris.
Dans une région lointaine de Paris, qui meurent des fous boulangers, c'est-à-dire de ceux qui font finalement
des pots de pain,
dont la farine vient très souvent d'Europe. Alors là, j'ai appris quelque chose d'Europe centrale.
D'Europe centrale.
Oui, oui. Et dont le coût de revient de la baguette est 3 fois moins cher que celle qui est fabriquée par le boulanger. Mais là, c'est sûr que, si vous voulez, à ce moment-là, quand vous êtes face à cette situation, vous vous dites, il faut que j'ouvre tous les jours pour pouvoir.
C'était pas le cas de notre boulanger, condamné, là.
Il y a quand même des
cas. C'était pas le problème, là.
Il y a boulanger.
Il y a boulanger.
C'est pas la même chose.
Ça fait partie du dossier. On est bien d'accord.
C'était des 3 boulangers artisans à la méthode classique, je sais pas.
En tout cas, voilà 3 boulangers qui vont marcher à la baguette.
Et qui vont sortir du pétrin?
La réalité. Allez, dans un instant, dernier sujet, Israël-Palestine et la situation qui se tend.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde dans RTL Soir.
Et à 8h10, on refait le monde ce soir sur RTL avec Yves Tréhard, Roland Kayrol, Xavier Couture et Hélène Pilichowski. L'amère impression que chaque année qui passe, la paix s'éloigne un peu plus. L'assassinat d'un couple d'Israéliens dans leur voiture jeudi en Cisjordanie ravive le conflit israélo-palestinien. Les violences se multiplient. Benyamin Netanyahou a annoncé qu'il n'y aurait aucune limite dans les activités des forces de sécurité pour lutter contre le terrorisme. Des renforts de soldats sont programmés. Alors, après 1987, après 2000, craignez-vous une troisième intifada, Roland Kerr? Allez-y, Hélène.
Non, mais c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'aucune limite... Est-ce qu'il y en avait avant? Le problème, c'est qu'il n'y a aucune limite dans l'escalade de la guerre, mais il n'y a pas l'embryon d'un brin de négociation. C'est-à-dire qu'on croit de temps en temps qu'ils vont se mettre autour d'une table, ils le disent, mais en fait, qu'est-ce qu'il dit Netanyahou? Il n'est pas question d'arrêter les constructions dans les territoires, etc. On continue, etc. Et donc, il s'étonne après qu'il y ait un geste un palestinien, ce à quoi il réplique
vous inversez les rôles là.
Non, je n'inverse pas les rôles, je termine. Et je trouve ça invraisemblable parce que c'est un engrenage. Il n'y a aucun. Je ne sais pas si ça ira vers une troisième intifada. La première date de 87. Ça fait combien d'années? Faites le calcul. Donc
ça va
bientôt
faire
30 ans.
18
voilà.
ans. 28 ans, oui.
30 ans bientôt, oui, effectivement. Et on n'a pas avancé d'un pouce. Et on n'y arrivera pas. Parce qu'il n'y a plus on ne parle plus de négociations. On ne parle que d'escalade. Et cette histoire de carte blanche est très choquante à cause de ça.
Non, mais pourquoi on ne parle pas de négociations? Il y a une chose qui est évidente depuis maintenant. La mort de Sharon, je dirais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Sharon, qu'on a présenté comme un faucon, alors que c'était pas un faucon du tout.
Je me souviens de lui à sa brèche,
mais c'était pas uniquement un faucon, c'était aussi une colombe. Et je vous rappellerai quand même le Golan. Mais ce qu'il faut dire particulièrement, c'est qu'il n'y a plus de leader ni d'un côté ni de l'autre. Quand vous avez un leader comme Mahmoud Abbas qui dit à la tribune des Nations Unies, je dénonce les accords de 95. Et pour moi, ça n'existe plus. Bah, évidemment, il ouvre la voie à tout. Et quand vous avez un Netanyahou qui ne respecte jamais sa parole et qui est fuyant comme c'est pas possible, eh bien, vous arrivez à une situation qui n'est inextricable.
Oui.
Avec aucun interlocuteur qui puisse prendre la parole valablement.
Roland Kayrol, aujourd'hui, c'est donc Netanyahou qui est là et qui lui dit « je défends une démocratie qui est Israël face à des terrorismes ». Et il dit même... ça vous arriverait sur les Champs-Élysées, vous auriez exactement les mêmes types
c'est
de
bien.
Propos que
non,
les miens.
Non, je,
bah,
que
c'est
je,
ce qu'il dit.
Que
hein.
je sache, il n'y a pas eu ce type de propos en France après les attentats terroristes. Que je sache, justement, ce qui faisait la force d'Israël par rapport aux États de la région, c'est que c'est une démocratie. Et dans une démocratie, entendre le Premier ministre venir dire qu'il donne carte blanche aux forces de sécurité pour faire ce qu'elles veulent, y compris en ce moment pour brûler les maisons de gens qui appartiennent à des familles de gens qui ont été terroristes. Je veux dire, là, la démocratie, elle est complètement oubliée. C'est la loi de la jungle, c'est la loi de la force d'État, dans une espèce de tranquillité du monde. Moi, j'en veux beaucoup à Netanyahou, parce que, dès sa dernière campagne législative, il a dit qu'il était défavorable à la création d'un État palestinien. Il essaye depuis de ne plus renouveler ce propos, mais il l'a dit dans sa campagne électorale. C'est sa position, et il a dans son gouvernement des gens qui sont beaucoup plus à l'extrême droite que lui, et qui veulent le tirer encore plus loin. Moi, j'en veux dans cette affaire, notamment aux États-Unis d'Amérique. Les seuls qui peuvent faire pression sur Israël, tout le monde le sait.
Ah, ils ont oublié le dossier, non ?
Ils ont oublié le dossier. C'est bien ce que je reproche. Parce que le problème, Hélène a raison, le problème, c'est que la négociation est totalement oubliée. L'idée même de négocier est oubliée. Et que les Américains, là vraiment, c'est une des grands torts d'Obama, a laissé tomber.
Il faut qu'il y ait des gens de poids. Ils n'existent pas. Mais si, attendez.
Il y en a eu des gens de poids, Yves. La diplomatie américaine, essayant de résoudre le problème, permettez-moi d'en rigoler encore.
Mais attendez, en 93-94, je ne sais pas si vous étiez là, mais il y avait quand même un petit espoir que ça puisse.
Alors,
une tragédie.
Je vais revenir à ça. La mort d'Itzhak Rabin, que je sache, n'a pas été tué par les Palestiniens.
Non, mais bien sûr. Mais
d'accord. Premier point, ce qui prouve bien que Israël avait vraiment envie de négocier.
Il faut le rappeler par un extrémiste juif. Hein. Oui. Il a été tué.
Bien sûr.
Mais il faut le rappeler. Voilà.
Mais lui, il avait signé les accords d'Oslo.
Mais lui voulait signer, effectivement, avait signé les accords d'Oslo. Arafat, dont on sait aujourd'hui, grand leader, qu'il a probablement été assassiné. Bref. S'il n'y a plus de leader, c'est aussi parce qu'on les a éliminés.
Non, on ne le sait pas.
Officiellement,
c'est même le contraire.
Officiellement, c'est le contraire. Vous me permettrez d'en douter.
D'accord, mais bon, mais donc on ne le sait pas. J'en doute.
Grand leader de guerre, mais pas grand leader politique, parce que c'était un piètre politique.
Mais la réalité, c'est tout de même. La réalité, c'est quand même qu'on voit bien qu'Israël n'a pas envie de faire la paix depuis le 14 mai 1948.
Attendez, mais les Palestiniens non plus n'ont pas envie de faire la paix. Mais attendez, vous êtes allé à Gaza.
Mais bien sûr.
Est-ce que le Hamas, il a envie de faire la paix?
Mais bien sûr, je suis complètement d'accord avec vous. Le Hamas n'a pas plus envie de faire la paix.
J'aime vous l'entendre dire.
Mais mon cher Yves. Vous comprenez pourquoi les Palestiniens n'ont pas dans ces conditions envie de faire la paix?
Mon cher Yves, ce n'est pas ni les Iraniens, ni les Qataris, ni les Saoudiens qui vont imposer au Hamas de faire la paix. En revanche, les Américains pouvaient l'imposer. Et croyez-moi, l'Occident porte une responsabilité majeure. De Gaulle le disait à l'époque, il fallait imposer la paix dans cette région qui, par ailleurs, a tout de même été l'un des ferments de la situation épouvantable qu'on connaît au Proche-Orient. Il faut se dire que là comme ailleurs, les États-Unis, y compris d'ailleurs dans l'incroyable émergence des mouvements sunnites, a une responsabilité majeure de déstabilisation de cette région.
La situation catastrophique qu'on connaît aujourd'hui et qui n'est le fruit que de ce qui s'est passé par le passé a été beaucoup alimentée par l'Iran et la façon dont l'Occident a géré l'Iran, y compris la France, puisque on le sait très bien, le terrorisme islamiste est né là-bas et qu'il était à vocation universelle, qu'il soit chiite ou sunnite. Et d'ailleurs, le Hamas est un mouvement qui est largement soutenu, qui était largement soutenu, un peu moins aujourd'hui, par les Iraniens.
Ne dites pas que les sunnites ont été soutenus par l'Iran, vous me faites rire, vous savez très bien.
Il faut quand même on peut quand même imaginer que pour les Israéliens, vivre dans un petit pays entouré de gens qui vous haïssent, c'est quand même un challenge.
J'aime le boulot d'entendre dire aussi.
C'est vraiment difficile.
Merci à tous les quatre. Merci à Hélène Pilichowski, à Xavier Couture, à Roland Kayrol, à Yves Tréhard. Dans un instant, le flash de 20h avec Julien Cellier.